Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
De Calade Maradio, bonjour, vous écoutez Couleurs du Monde, l'émission mensuelle qui va prendre aujourd'hui des teintes plutôt sombres, très en phase avec un air du temps de ce début d'année 2025. Parce que figurez-vous qu'on va parler de l'extrême droitisation du monde. Oui, je sais, ce terme n'existe pas dans la langue française, je viens de l'inventer, c'est comme ça. Mais je suis certain, chers auditeurs, que vous voyez parfaitement ce que j'évoque avec ce néologisme. Le monde est en train de subir un tsunami politique aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents, avec ce point d'orgue récent de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. La démocratie serait-elle en train de faire face à un grand remplacement au niveau mondial? On peut se poser la question. Ah ah ah, qu'il est drôle ce prof Patrick. Mais ce trait d'humour va me permettre d'introduire ma partenaire pour cette émission, Emma, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
On salue aussi Jean-François à la technique.
Salut.
Coucou Jean-François.
Emma va nous parler du langage de l'extrême droite, justement. Elle va aussi nous montrer que la littérature a déjà décrit en détail le fonctionnement de ce type de pensée politique. Ça sera donc une émission politico-littéraire.
Absolument, je vais vous parler de 1984 de George Orwell.
Bien entendu. Alors, nous n'allons pas pour cette émission nous poser la question de l'apparition historique de l'extrême droite. Je mettrai dans le podcast un lien vers une chronique que j'ai faite en avril 2022 lors des élections présidentielles, où j'avais fait rapidement ce travail. J'avais aussi tenté dans cette chronique de définir ce courant de façon un peu inhabituelle avec le recours de l'anthropologie. Nous n'allons pas non plus nous pencher sur les raisons de leur montée en puissance récente, je parle des mouvements d'extrême droite. Pour ça, vous trouverez également dans le podcast un lien vers une série de trois chroniques que j'ai faites fin 2022, qui annonçaient comment une alliance inédite entre le courant libertarien venu des États-Unis et la bonne vieille extrême droite était en train de se constituer. Et ça pour remplacer peu à peu, encore un grand remplacement, l'idéologie néolibérale qui dominait depuis le début des années 80. Bon, alors vous me direz de quoi on va parler, hein ? Eh bien, je vous propose de poser une petite problématique chère à nos étudiants de toujours. Je l'introduis. L'extrême droite est un courant politique qui n'a jamais digéré la naissance et la domination de la démocratie libérale sous quelque forme que ce soit la forme républicaine française ou la forme libérale anglo-saxonne, par exemple. Notre problématique est donc la suivante. La finalité de cette montée en puissance de l'extrême droite dans le monde entier n'est-elle pas la remise en cause totale, systématique, de tous les principes et les piliers sur lesquels repose la démocratie libérale? Amy, j'ai mis un point d'interrogation. Leur finalité ne serait-elle pas d'en finir avec la démocratie libérale telle que nous la vivons depuis 200 ans environ? Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est le fondement de la démocratie libérale. Et c'est quoi? En fait, c'est la séparation des pouvoirs. Et nous verrons qu'elle est sévèrement remise en cause par les extrêmes droites aux commandes dans divers pays. Dans une deuxième partie, nous en dirons un peu plus sur la remise en cause de la liberté d'expression. Ensuite, dans une troisième partie, nous verrons que cette remise en cause est complétée par la construction de toute pièce d'une vérité alternative, destinée à remplacer encore, ça n'arrête pas le grand remplacement, les vérités factuelles et scientifiques démontrées. Et dans une quatrième partie, nous détaillerons le mécanisme fondamental de la désignation de bouc émissaire et des violences perpétrées contre ces groupes. Constaterez, chers auditeurs, qu'on va beaucoup parler des États-Unis de Trump, puisqu'il est, par sa radicalité, une sorte de révélateur de ce que les extrêmes droites n'osent pas généralement dire ou faire à haute voix. Mais on évoquera aussi l'Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orban et l'Israël de Benjamin Netanyahu. On y va ? C'est parti ? Qu'est-ce que t'en penses, Emma ?
Eh ben allez, c'est parti.
Bon, on va commencer par la remise en cause de la séparation des pouvoirs. C'est moi qui m'y colle, désolé Emma,
je
monopolise un peu la parole pour commencer.
Je te laisse faire et puis j'introduirai la littérature plus tard.
Prépare tes armes. On attribue généralement à Montesquieu le principe de la séparation des pouvoirs. Le fondement, c'est l'idée que tout pouvoir doit être limité et que la meilleure solution, c'est de répartir le pouvoir entre diverses mains. Lesquelles? On a d'abord le pouvoir exécutif, c'est-à-dire ceux qui dirigent la cité au quotidien, qui mettent en œuvre les politiques qu'ils ont annoncées et qui les ont fait élire. Dans notre système français, c'est le gouvernement et le président de la République. On a ensuite le pouvoir législatif. Ce sont les parlementaires élus aux diverses chambres politiques. Chez nous, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Je laisse un peu de côté les élus locaux. Ils ont la charge de voter les lois avec l'idée, alors attention, une idée très peu respectée dans notre 5e République, qu'ils devraient être à l'origine de l'essentiel de la rédaction des lois et de la formulation des lois, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. C'est tout le corps de la justice chargé de faire respecter en toute indépendance, pas facile ce dernier point, les lois, mais personne n'a jamais dit que les démocraties existantes étaient parfaites. Et ensuite, ultérieurement, après ces travaux de Montesquieu, on a ajouté un quatrième pouvoir. C'est la presse, c'est les médias. Ils ont pour mission d'informer également en toute indépendance. Donc vous l'avez compris, aucun pouvoir ne doit prendre l'ascendant sur les autres. Et celui qui est le plus tenté de prendre l'ascendant sur les autres, c'est bien sûr le pouvoir exécutif. D'accord ? Alors qu'en est-il, maintenant on peut se poser la question, qu'en est-il quand l'extrême droite prend le contrôle d'un pays ? Eh bien, il suffit d'écouter leur discours, en fait. Ces partis annoncent systématiquement la remise en cause des prérogatives des plus hautes institutions judiciaires, celles qui sont au sommet de la hiérarchie du pouvoir judiciaire. Pour la France, c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Pour l'Union européenne, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. En France, le Rassemblement national, par exemple, a longtemps fustigé le gouvernement des juges. Lors de la campagne présidentielle en France de 2022, Marine Le Pen entendait, j'ouvre les guillemets, « empêcher les juridictions supranationales de forcer la France à suivre des politiques contraires à la volonté du peuple français ». Les juridictions supranationales, elles sont au sommet de la hiérarchie du pouvoir judiciaire. Elle disait aussi qu'elle entendait réserver un certain nombre de prestations sociales au sol français, ou encore leur accorder une priorité d'accès au logement social, je ferme les guillemets, autant de mesures qui sont contraires à la Constitution française. Comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel en avril 2024. Toute notion de priorité nationale est contraire à la Constitution. Mais je vais prendre un exemple récent à l'étranger, venant d'un pays où l'extrême droite est au pouvoir, c'est Israël. En Israël, il y a eu une tentative, en 2022-23, pour mettre la Cour suprême sous le contrôle du gouvernement. C'est leur institution judiciaire numéro un, bien sûr. Et le gouvernement Netanyahou a donc commencé à mettre en place des projets de loi pour vraiment faire disparaître la Cour suprême en tant qu'institution indépendante. Hein. Okay. Il a été bloqué in extremis par des manifestations d'une ampleur qui n'avait jamais été vue en Israël. D'accord ? Mais évidemment, on va en venir à notre héros numéro un. C'est surtout les premières semaines de Trump au pouvoir qui montrent clairement comment se traduisent les pratiques de l'extrême droite. Des purges massives sont conduites actuellement au sein du FBI, au sein de la justice américaine, le pouvoir judiciaire. Des pans entiers du système administratif américain sont actuellement disloqués sous la houlette d'un groupement qui n'est pas approuvé par le Congrès américain alors que la loi américaine l'exige. Ce groupement, c'est le fameux DOGE, dirigé par Elon Musk. Des purges sont également en cours dans le ministère des Affaires étrangères, enfin, l'équivalent américain, dans les services de renseignement, la CIA et compagnie, et des purges sont également en cours dans l'armée. Sont ainsi traquées toutes les personnes considérées comme des ennemis de l'intérieur. Vous voyez, le terme, c'est bien, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Par exemple, toutes les personnes transgenres ont été licenciées de l'armée. L'administration Trump est même en train d'évoquer la possibilité d'annuler un arrêt de justice historique de la Cour suprême, l'arrêt Marbury versus Madison, qui date de 1803. Pourquoi il est important cet arrêt ? Parce que c'est celui qui a permis d'établir le principe selon lequel les tribunaux sont les arbitres ultimes de la loi.
Ce qui est quand même la base de ton régime démocratique.
Et la base de la séparation des pouvoirs, s'ils font ça, c'en est fini. Et déjà... Il y a d'énormes reculs, mais là, ça en serait totalement terminé.
Si je me permets de remonter ton fil, Patrick,
j'en ai fini avec cette première partie.
Tu as montré que là, aux États-Unis, ils sont réellement en train de démonter le système.
De remettre en cause la séparation des pouvoirs.
Voilà, ça a été tenté un peu en Israël, et c'est ce que voudrait faire Marine Le Pen en France.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait.
On est bien d'accord.
Évidemment, en France, on a un discours plus mesuré, mais oui, ils passent leur temps à annoncer que vouloir réduire l'influence du Conseil constitutionnel, des cours internationales, etc., etc., bien sûr. On va passer maintenant à cette deuxième partie que j'avais annoncée, c'est-à-dire tous les éléments qui reviennent à remettre en cause la liberté d'expression. Et on va commencer par l'Italie maintenant. Puisque l'extrême droite est au pouvoir en Italie depuis octobre 2022, c'est Giorgia Meloni qui est la première ministre. Alors la stratégie globale en termes d'information en Italie est très simple. Il s'agit d'imposer une sorte de storytelling, le storytelling du gouvernement Meloni, et de dissuader financièrement et par le durcissement des règles tout média indépendant qui vient trop leur casser les pieds. Alors pour ça, Giorgia Meloni s'est inspirée de la méthode Orban, que Orban a mis en œuvre depuis quasiment 20 ans maintenant qu'il est au pouvoir, le premier ministre hongrois. Comment ça marche? C'est très simple. Son gouvernement, par exemple, attaque en justice systématiquement tout journaliste ou tout citoyen un peu critique. Des exemples, Giorgia Meloni a attaqué en justice le célèbre journaliste italien Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, le spécialiste de la mafia, menacé par la mafia. Elle a attaqué en justice un historien, Luciano Campora, qui a tenu des propos critiques à son égard. On évoquera pourquoi dans pas longtemps. Alors, il faut savoir que la plupart des plaintes n'aboutissent pas.
Oui, c'est ce que j'allais demander, en fait, concrètement.
Mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. Le but, c'est le coût financier. C'est que les gens se disent, mais je peux pas encaisser des frais de procès, donc je la ramène moins et je deviens moins critique.
En fait.
Exactement. Okay. Le gouvernement Meloni a aussi fait censurer une interview à la RAI d'Antonio Scuratti, un écrivain italien très célèbre pour le travail littéraire qu'il est en train de faire autour de Mussolini. Il écrit une sorte d'histoire de Mussolini en plusieurs tomes. Il va sortir le quatrième tome en France dans pas longtemps. Et l'histoire du fascisme italien. Le gouvernement Meloni a fait renforcer les sanctions pénales contre la presse en cas de diffamation, toujours menace financière. La chaîne de télé publique italienne, c'est la RAI, a été reprise en main par des proches de Giorgia Meloni qui ont procédé à des purges dans les effectifs. Okay. Et enfin, les aides d'État à la presse ont été diminuées, encore une fois, pour fragiliser économiquement les médias indépendants. Voilà un petit peu pour l'Italie. On va passer aux États-Unis. Okay. Aux États-Unis, il y a une agence importante, une agence de presse, s'appelle l'agence Associated Press, l'équivalent de l'AFP, par exemple. Bien figurez-vous que depuis quelques jours, elle est interdite d'accès aux conférences à la Maison-Blanche, ce qui est très gênant parce qu'en fait, elle ne peut pas faire une partie importante de son travail qui est de rendre compte des décisions politiques au quotidien du gouvernement.
Mais concrètement, est-ce que vous savez pour quelle raison ?
Ah, voilà. Vous savez, gouvernement Trump, je pense que vous avez compris qu'il il s'assoit dessus. Est-ce que vous savez pour quelle raison on lui a interdit l'accès ?
Ce qui ne veut pas dire le golf des États-Unis.
C'est ça. Parce qu'elle a osé ne pas se soumettre à l'ordre de Trump d'appeler désormais le golfe du Mexique golfe d'Amérique. Et pour ça, ils ont été interdits d'accès à la Maison-Blanche. Dans le même temps, la chaîne CNN, très connue, le journal Washington Post, très connu, sont désormais interdits d'accès au Pentagone, au ministère de la Défense. Pourquoi ? Parce que leurs articles déplaisent au gouvernement de Trump. Ils y avaient des bureaux permanents depuis des décennies. Ils ont été attribués à des médias pro-Trump. Parallèlement, il y a tout un tas d'agences gouvernementales, comme le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, l'Agence de protection de l'environnement, qui ont des sites Internet. Sur ces sites Internet, des milliers de pages ont été supprimées. Et ces agences ont désormais interdiction de s'exprimer publiquement. Le gouvernement, ça c'est au niveau des faits, après au niveau des discours qu'ils annoncent qu'ils aimeraient faire, le gouvernement américain explique actuellement que les journalistes qui refuseraient de révéler leurs sources devraient être emprisonnés, que les médias qui diffusent des articles critiques à leur encontre devraient voir leurs droits de diffusion révoqués. Elon Musk a récemment écrit sur Twitter, X, que les journalistes de l'émission 60 Minutes sur CBS, c'est une émission qui existe depuis des décennies, une émission d'enquête qui est célébrissime, devraient être condamnés à de longues peines de prison, dit-il. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un ? Non, non, ils ont juste donné la parole à un Américain qui critiquait sévèrement l'action d'Elon Musk. Voilà, c'est tout. Et on aurait pu citer des exemples encore plus évidents du côté de la Russie, où les assassinats de journalistes surviennent régulièrement, et il y en a d'autres encore. Mais je pense que vous avez compris un petit peu la teneur des rapports d'extrême droite avec la liberté d'expression dès qu'elle est au pouvoir. Emma, ça va être à toi maintenant. On va passer à la partie littéraire de cette émission politico-littéraire. Oui ? On fera on va peut-être faire une pause musicale.
Il me semble bien qu'on ait une pause musicale qui est prévue.
Je n'y ai plus pensé. Je suis un vrai marathonien. Je ne veux pas m'arrêter. Mais Emma pense à tout. Merci, Jean-François.
Je t'en prie.
La vie conjugale que peut mener cette tare congénitale. Cet individu est né à l'insu de ses parents. N'allons pas plus loin disant que c'est un accident. Ah ah. Ah ah. JMLP. Je verse quelques pièces sur le dossier noté à bon. Ah bon. Pourquoi tant de haine à l'intérieur d'un embryon? On fait poser les plus grandes questions à son sujet. Pourquoi faut-il qu'il pèse dans ce corps et dans le sifflet?
Un peu comme la lèvre du dindon. Il a un grain qui passe sous le menton. C'est pas rugueux, c'est visqueux.
Il a les individus du triton.
Quand on a baigné dans du jus de citron.
Il est moche, il est affreux.
Mama Ilio, Mama Ilio, Mama Ilio, Mama Ilio, Mama Ilio, Mama Ilio.
C'est évident dans le doute, comment je m'autorise à rester debout au milieu d'une cour assise.
Tabriya Madame Mama E, Bambaria Mama E, Tabriya Madame Mama E, Bambaria Mama E, Mama E.
Sans disant on veut pas de lui. On aime mieux finir en bouillabaisse ou même frit. On s'est posé les plus grandes questions fondamentales. Est-il végétal, animal, trou du cul anal?
Les piranhas, même les poissons, chats préfèrent la moco qu'a dit ça. Ça c'est pas étonnant, c'est même évident.
À l'assemblée on lui dit casse-toi, dégage. Si tu feras pas la loi, ta mère fait que du vent.
Tabriya madame, mama idio, mama idio, mama idio. Tabriya madame, mama idio, mama idio, mama idio.
C'est évident dans le doute, moi je m'autorise.
Il est dangereux, il a toutes les dents pointues. Il a pas de molaire, il a que des canines. Les commères disent de lui qu'il est né à part le rue. J'ai vérifié l'info, il a pas de racines. Les oreilles ça va, mais c'est à l'intérieur. On y trouve un dépôt un peu surnaturel. Vous qui êtes normal, vous appelez ça du miel. Un jour il va éviter du fortune en toute fête. Un bouc, un bouc. Y'a rien à faire à lui tout seul, il refait l'atmoisphère, il pue. Il stique, il renacle, il dégage, il malaxe, il macère. Il ferme ta souhait, tu vas te réveiller. Tu veux un coup de fouet, approche. Approche.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Les couleurs du monde sur Calanma Radio. Notre émission de ce mois est on vient d'entendre, j'ai encore oublié, on vient d'entendre Zebda, la bête Jean-Marie Le Pen. Donc on est dans les années 90 et voilà une partie de la musique, comment dire, créer de la musique contre la montée en puissance du Front National. À l'époque, c'était le Front National. Ouais. Notre émission est d'ailleurs consacrée à un néologisme que j'ai créé qui s'appelle l'extrême droitisation du monde. On a posé une problématique. On a dit la finalité de la montée en puissance des extrêmes droites dans le monde ne correspondrait pas à l'idée d'en finir avec la démocratie libérale telle que nous la vivons depuis 200 ans environ. Et donc pour cela, on a commencé à parler de ce qu'est la séparation des pouvoirs et de la façon dont elle est remise en cause. Et on a parlé également de la remise en cause de la liberté d'expression. Mais comme je l'avais indiqué, c'est une émission politico-littéraire. Emma va nous parler de cette partie de remise en cause de la liberté d'expression, mais à sa manière.
Tout à fait. En fait, actuellement, à chaque fois que je lis un article sur Donald Trump, Elon Musk et ce qui se passe aux États-Unis, je me dis « Mais oh !» On est dans 1984.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, je me suis dit, il faut qu'on en parle, en fait. Mm-hmm. Alors, je vais vous en parler, du coup.
On va peut-être expliquer ce roman-là, 1984.
C'est un roman, donc, qui a été écrit par George Orwell en 1948, sorti en 1949.
Il a inversé les deux chiffres, 48-84, ouais, hein, je me rappelle, pour créer son titre et situer historiquement.
Tout à fait. Donc, George Orwell, c'est un Britannique. Hein, son travail prend racine dans la situation du monde de la Seconde Guerre mondiale, l'après-Seconde Guerre mondiale. Et il a été très tôt qualifié de visionnaire. Mmh. Et jusque-là, bon, c'était un visionnaire un peu lointain. Hein. Sauf que, on s'en rapproche de plus en plus de cette contre-utopie qu'il a imaginée.
Je dirais que c'était un visionnaire qui aussi avait raison concernant l'autre grand totalitarisme qui était le communisme soviétique.
Absolument.
Mais pour le reste, on se disait, c'est bon, c'est du passé, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Eh bien, alors, écoutons. Alors, donc, je vais vous lire quelques extraits. Je vous présente quand même d'abord le héros. Le héros du roman, c'est Winston Smith. Il vit à Londres, alors pas Londres telle qu'on la connaît, hein, mm-hmm. Une Londres dévastée. Mm-hmm. Donc aux alentours de 1984, parce qu'il n'est pas possible à cette époque-là de connaître l'année exacte. Et il vit sur l'un des trois blocs qui constitue le monde. Alors, le bloc où il vit, c'est Océania. On sait qu'il est dirigé par un parti, mais on ne sait pas si c'est un État, un empire. Hein, c'est assez flou. Mm-hmm. Et ça commence comme ça. C'était une journée d'avril, froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire. Pas assez rapidement, cependant, pour empêcher que s'engouffre au même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'un mètre. Le visage d'un homme, d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine.
Wow.
Son appartement était au 7e. Winston avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite. Il montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, en face à la cage d'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblaient suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne, encastrée dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Alors je m'arrête là pour l'instant et je vous dis quelques mots sur ce télécran. Ce télécran, c'est un appareil que tout le monde a chez lui. Hein. Il diffuse du son et des images et il capte également le son et les images de la pièce.
C'est un système espion aussi. Hein.
Mais dis Siri, ça ressemblerait pas un peu à toi ?
Eh oui. Alors, les technologies modernes le permettent et ils le font. Hein.
Absolument.
Apple est attaqué en justice pour avoir fait des écoutes illégales via son système.
Voilà. Alors, c'est pas exactement Siri en vrai. Ce serait plus un mélange d'un téléviseur, mais qui serait muni d'une caméra, hein, comme un mélange finalement entre un téléviseur et un ordinateur téléphone.
Hein. Il a inventé ça en 45-48,
oui,
donc c'est déjà pas mal comme.
Oui, c'est totalement visionnaire.
Pour et en Chine, ça existe. Hein. Ça existe, hein, les systèmes faits pour espionner qui sont dans les appartements, ça existe depuis quelques années.
Voilà. Alors, la différence ici, c'est qu'on nous dit qu'il n'y avait pas moyen de l'éteindre complètement.
Ouais.
Alors, pour l'instant, nous, on peut encore éteindre sa télé, son ordinateur ou son téléphone, hein, vous êtes d'accord ? Enfin, on peut, hein, mais posez-vous la question. Depuis combien de temps vous n'avez pas laissé éteint ou loin de vous plus de quelques heures votre téléphone portable ?
Eh oui, bien sûr.
Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive quand même régulièrement de parler d'un sujet et quelques heures plus tard de recevoir une publicité ciblée pile sur ce sujet. Et pourtant, moi, je n'utilise aucun assistant vocal et je refuse tous les cookies quand je vais sur des sites.
D'accord.
Du coup, je vous pose ça là, messieurs, dames, et je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. Pour en revenir au roman d'Orwell, Winston, lui, il se sent en décalage avec certains aspects de cette société. Et il a remarqué dans son salon qu'il y avait un angle vide, parce que le bâtiment, il est un peu vieux.
D'accord.
Il y a un angle vide qui fait que, dans le viseur du télécran, il va pouvoir être un petit peu caché.
D'accord.
Et donc, il décide d'y installer son fauteuil, hein, de dos, Et il va commencer quelque chose de tout à fait incroyable et horrifiant à la fois à cette époque-là. Il va commencer à écrire secrètement un journal où il pourra exprimer réellement ce qu'il pense.
D'accord.
Alors, par ce geste, il s'expose à être un jour découvert par la police de la pensée. La police de la pensée dont je vais vous parler juste après. Mais ce que je voudrais vous dire...
La police de la pensée, c'est une des inventions les plus majeures de ce roman, hein, et qui est restée.
Voilà. Et en fait, Winston, en fait, quand il commence à écrire, et puis un petit peu plus tard dans le roman, il dit ceci. Il réfléchit qu'il était déjà mort. Il lui apparut que c'était seulement lorsqu'il avait commencé à être capable de formuler ses idées qu'il avait fait le pas décisif. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de pensée n'entraîne pas la mort. Le crime de pensée est la mort.
Mmh. » Penser de travers, c'est mourir, c'est voué à mourir.
C'est ça. En fait, il sait qu'à partir du moment où il a commencé à écrire ce journal, pour lui, c'est terminé.
Il est un mort en sursis.
Il le sait. Il est un mort en sursis.
D'accord.
Alors, autre élément capital, l'Océania, donc où vit Winston, c'est un état empire dirigé par le parti de ce fameux Big Brother, dont je vous ai lu le portrait hein, tout à l'heure. Vous avez vu donc que ce chef-là,
le fameux Big Brother, qui est
géant placardé partout. Voilà. Hein, c'est un chef à la posture dictatoriale, hein, dont la description, par ailleurs, n'est pas sans rappeler Staline.
Je ne connais pas par hasard.
Oh, mais tiens, un portrait géant placardé partout, ça vous ferait pas penser à un certain Vladimir ?
Oui.
Alors, le slogan de ce parti, je vous le donne, écoutez bien, la guerre, c'est la paix.
Ouais,
liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Youpi ! Ça fait trop envie.
Ouais. Donc ça, c'est les phrases chocs qui, là aussi, qui ont fait la légende de ce roman.
Évidemment.
Par sa force symbolique.
Tout à fait. Alors, c'est un état donc où l'extrême surveillance est de rigueur, comme vous allez l'entendre ici. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné on était surveillé. Combien de fois, suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car d'habitude... Pardon. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu, et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Et bien entendu, qui dit extrême surveillance dit extrême répression. Les actes qui vont à l'encontre du parti, bien sûr, mais pas seulement. Penser différemment du parti, c'est s'exposer à la torture, et plus encore à un lavage de cerveau dont le processus glaçant nous sera suggéré, révélé petit à petit au fil du roman.
Tout à fait.
Et là encore, des avions d'opposants politiques à M. Poutine qui s'écrasent, des disparitions mystérieuses de personnes qui ne pensent pas comme lui. Il ressemble un peu, non ?
On a eu ça, on a eu ça ces 20 dernières années.
On a aussi, je vais terminer là-dessus, la répression sur tous ceux qui ne rentrent pas dans le cadre et dans le moule du parti. Les homosexuels, les personnes LGBT en tout genre, aujourd'hui en Russie, sont hors la loi, sont poursuivis. Et ça arrive aux States avec la suppression de la politique diversité-inclusion pour les personnes LGBT, pour les personnes transgenres, pour les minorités ethniques, pour les féministes aussi, hein, pour ne pas dire pour les femmes. Hein, on y arrive. Voilà, donc je vais te redonner la parole, Patrick, mais en tout cas, ce roman présente vraiment là... Enfin, notre monde actuel commence sérieusement à ressembler à certaines parties de ce roman.
Très bien.
Galade.
Les couleurs du monde.
Merci Emma. Nous écoutons, vous écoutez, auditeurs de Calenma Radio, Couleur du Monde, notre émission consacrée à l'extrême droitisation du monde. Emma vient donc de terminer la partie littéraire. On fait une émission politico-littéraire sur la montée dans le monde entier d'extrême droite avec cette problématique qui est... Est-ce que l'extrême droite ne cherche pas tout simplement à remettre en cause, en finir avec 200 ans de démocratie libérale ? On va pouvoir passer à la troisième partie que l'on avait annoncée, c'est la remise en cause des faits et des vérités scientifiques. Comme l'a expliqué récemment Joseph Stiglitz, je ne sais pas si vous connaissez Joseph Stiglitz, c'est un économiste américain célèbre, prix Nobel d'économie en 2002. Il a expliqué dans un podcast récemment que dans de nombreux États américains, comme par exemple la Floride, il est désormais interdit d'enseigner la théorie de l'évolution. Il est extrêmement risqué d'enseigner l'histoire de l'esclavage ou la lutte pour les droits civiques. Et de même, les analyses du réchauffement climatique sont contrôlées par le pouvoir politique de ces mêmes États. Plus grave peut-être, on apprenait fin janvier que des ordres avaient été donnés par le gouvernement Trump au ministère de la Santé et au CDC, le fameux centre de contrôle des maladies, d'interdire certains mots-clés dans la recherche médicale et de rétracter ou de réécrire toutes les recherches qui contiennent ces mots-clés. Alors, de quels mots on parle ? J'ai la liste complète, c'est assez hallucinant. Je vous donne quelques exemples. Personnes enceintes, transgenres, LGBT, transsexuels non binaires, activistes, biais, héritage culturel, diversité et inclusion, marginalisés, victimes, femmes, tout ça, c'est des mots. Si ces mots apparaissent dans des recherches, les recherches doivent être retirées. Dans ce cas aussi, les scientifiques du CDC et du ministère de la Santé donc, ont interdiction de communiquer sur ce sujet. Là, il faut quand même avoir conscience que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans la situation d'un pays supposé démocratique, les États-Unis, qui a pris la décision de contrôler la recherche scientifique. La dernière fois que j'ai en tête où un pays a fait ça, ben c'est pas compliqué, c'est dans l'URSS de Staline, quand ils ont décidé que la génétique était une science bourgeoise, qu'ils l'ont interdite et qu'ils ont lancé la génétique soviétique avec Lysenko, qui a ridiculisé l'URSS dans le monde entier, qui leur a fait perdre 20 ans. C'est vraiment quelque chose d'absolument terrifiant, la prise de contrôle de la science par le politique. Continuons.
Les scientifiques américains sont très très inquiets.
Oui, il y a des mouvements de protestation dans le monde entier, notamment en France également. Alors, côté réseaux sociaux, la composition des algorithmes, on le sait, pousse naturellement en avant les contenus les plus clivants, les plus extrêmes. Ça, c'est un classique depuis que les réseaux sociaux existent. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les algorithmes ont encore été modifiés pour, cette fois-ci, mettre en avant les contenus complotistes de l'extrême droite. Tous les services de modération et de fact-checking de Twitter, de NuX, ont été fermés. Elon Musk a également retiré X d'un code, un engagement volontaire de compagnies privées, de la tech, de TikTok et compagnie, qui s'engageaient à lutter contre la désinformation. Il y a une ONG anglaise qui s'appelle le Centre pour l'analyse de la haine digitale, qui a fait une étude et qui a révélé qu'en sur les 6 premiers mois de l'année 2024, l'année dernière, Elon Musk lui-même a publié 50 posts faux ou trompeurs au sujet des élections américaines présidentielles. Ces posts ont généré 1,2 milliard de vues. Voilà. Mais on peut continuer, Les réseaux sociaux sont, vous l'avez compris, des caisses de résonance surpuissantes de tous les discours extrêmes. Un exemple, avec le renouveau des mouvements climato-sceptiques que l'on constate depuis quelques années, l'ONG britannique, la même ONG que j'ai citée tout à l'heure, a publié des études qui montraient qu'en 2018, les vidéos sur YouTube qui affirmaient que le réchauffement climatique était un canular représentaient 35% des vidéos, ce qui était déjà énorme. En 2023, c'est 70% des vidéos. Et le plus malin, en fait, c'est que ce travail de reformatage des faits et des vérités scientifiques se fait au nom de la liberté d'expression.
Oui, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'en fait, ils retournent totalement le concept.
Exactement. Et concrètement, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui a fait un discours à Munich le 14 février dernier devant les représentants de l'Union européenne, etc., qui n'en revenait pas de ce qu'il leur disait. Puisqu'il a indiqué, en fait, tout simplement que le plus grand danger qui pesait sur l'Europe, c'était évidemment pas la Russie, son pote, mais c'était le manque de liberté d'expression. Et il visait par là, bien sûr, les mécanismes juridiques qui sont communs à la plupart des pays d'Europe de l'Ouest pour interdire les propos diffamatoires, les propos racistes, etc. Donc là, on est dans une revendication classique des discours d'extrême droite de tous les temps pour le droit à exprimer librement des propos racistes, homophobes, misogynes, transphobes, climato-sceptiques, tout ce que vous voulez, sans contrôle. Voilà.
Bah, c'est quand même plus simple d'avoir le droit de dire n'importe quoi pour embrouiller les gens. Hein.
Exactement. Et de pousser à la haine de façon impunément.
Tout à fait.
De façon plus subtile, en Italie, on va revenir à l'Italie de Giorgia Meloni, mais en fait, non, on va revenir avant. C'est dès les années 90 et les années 2000 qu'un travail de l'ombre a été fait par l'extrême droite et qui a commencé à porter ses fruits. En Italie, le travail de l'ombre, c'était celui de la réhabilitation du fascisme et de la réhabilitation de Mussolini. Et ça, c'est l'écrivain Antonio Scurati, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un des spécialistes de Mussolini, hein, qui est en train de faire une œuvre absolument colossale autour de l'histoire de Mussolini et du fascisme. Et c'est lui qui l'a expliqué. Il a expliqué que les éditions et les publications dans ce sens, pour la réhabilitation du fascisme, se sont multipliées peu à peu. C'est pas par hasard les années 90. C'est l'arrivée de Berlusconi au pouvoir. Ouais. C'est-à-dire la droite change de nature, en quelque sorte. Et c'est une droite sans morale qui apparaît et qui est prête à tout et à s'acoquiner avec tout, et notamment avec l'extrême droite. Des hommes politiques à cette époque-là se sont mis à citer des phrases de Mussolini lors de réunions. Des groupes ouvertement néofascistes sont apparus au grand jour ou réapparus. Et si on passe 20 ans, on arrive à l'Italie d'aujourd'hui, eh bien, pour la première fois, on a eu une chef de gouvernement qui, chaque année, lors de la commémoration de la libération d'Italie, c'est le 25 avril chaque année, sachant que c'est la libération d'Italie le 25 avril 1945, a refusé de prononcer le mot antifascisme, qui est pourtant le mot qui est au socle de l'écriture de la Constitution italienne. Voilà. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette question des vérités alternatives, notamment la façon dont Donald Trump n'a jamais accepté la victoire de Joe Biden en 2020, la façon dont quasiment la moitié des électeurs américains ont adopté ce point de vue totalement délirant. Ou encore plus récemment, la façon dont Trump essaie de réécrire l'histoire récente en niant devant le monde entier le fait que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine en février 2022. Et qui présente l'Ukraine comme l'agresseur.
Tout à fait.
Voilà. On a l'impression on a l'impression de vivre dans un monde de fous.
En fait, c'est très précisément ce qui se passe dans notre roman. J'y viens. Hein, donc, pour terminer de présenter le roman, on s'en doute, puisque c'est un régime dictatorial, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Océania. Big Brother est à la tête de 4 ministères qui constituent l'ensemble des institutions gouvernementales qui sont les suivantes. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'Amour, qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le ministère de l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Et leur nom, en 9 langues, était Mini-Ver, Mini-Pax, Mini-Amour, Mini-Plan. Vous avez entendu leur nom en 9 langues. Qu'est-ce que c'est que cette 9 langues? Eh bien, cette 9 langues, c'est celle que met le pouvoir en place.
Dans ce monde imaginaire de 1984.
Tout à fait. Dans 1984, le pouvoir veut petit à petit imposer la 9 langues. Hein. Les citoyens sont incités à l'employer de plus en plus. Cette 9 langues, elle réduit les mots. Et réduire les mots, chers auditeurs et auditrices, cela revient à réduire la pensée.
Voilà, c'est ça.
Je vous lis 2 extraits tout à fait significatifs. D'abord, un extrait de l'appendice du roman. Les principes de la novlangue. La novlangue a été la langue officielle de l'Océania. Excusez-moi.
Ah, on dit le novlangue ?
On dit le novlangue.
Okay.
Il fut inventé pour répondre aux besoins de langue soc, ou socialisme anglais. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage, que ce fût oralement ou par écrit. Les articles de fond du Times étaient écrits en novlangue, mais c'était un tour de force qui ne pouvait être réalisé que par des spécialistes. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, hein, donc le nom de la langue ordinaire, vers l'année 2050.
Ah oui, il faut du temps.
Entre-temps, il gagnait régulièrement du terrain. Les membres du parti avaient de plus en plus tendance à employer des mots et des constructions grammaticales novlangues dans leurs conversations de tous les jours. La version en usage, en 1984, et résumée dans les 9e et 10e éditions du dictionnaire Novlangue, était une version temporaire, qui contenait beaucoup de mots superflus, de formes archaïques, qui devaient être supprimés plus tard. Nous nous occupons ici de la version finale, perfectionnée, telle qu'elle est donnée dans la 11e édition du dictionnaire. Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de Langsok, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Je vais compléter avec ce que dit à Winston, un de ses collègues de travail, puisque Winston, en fait, il travaille au ministère de la Vérité. Et son travail à lui, c'est de, officiellement de corriger les erreurs d'édition dans la presse. Autrement dit, dans la réalité, de réécrire l'histoire en transformant les articles des journaux.
La fameuse réécriture d'histoire.
Une fois que les journaux sont sortis, ils sont détruits immédiatement et modifiés pour correspondre avec les idées du moment du parti et qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Alors je vous lis ce que dit à Winston, son collègue. Ne voyez-vous pas le véritable but du novlangue, que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer.
Ouais, c'est ça, voilà.
Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot, dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées ou oubliées. Déjà dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps, après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a plus dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime pour la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est Langsok et Langsok est le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Alors, le lien avec l'actualité, tu l'as dit, Patrick, la décision du président américain d'effacer certains mots de ses sites web, des publications scientifiques, en fait, supprimer les mots, clairement, sachant le bien, c'est empêcher petit à petit les gens de penser. Ouais, car lorsqu'on ne peut pas nommer un concept, on ne peut pas réfléchir à son propos.
Ouais, exactement, tout à fait. On va faire une deuxième pause musicale.
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience.
Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à
Couleurs du monde.
Vous écoutez Couleurs du monde, l'émission mensuelle sur Calade Maradio, chers auditeurs, qui est consacrée à l'extrême droitisation du monde. On a posé cette problématique, cette hypothèse que cette poussée mondiale de l'extrême droite contribue à pour but la remise en cause de toutes les démocraties, le principe démocratique des démocraties libérales dominant depuis 200 ans environ. On a vu, c'est une mission politico-littéraire, c'est-à-dire qu'on a parlé de la séparation des pouvoirs et de sa remise en cause. On a parlé des remises en cause des libertés d'expression. Emma travaille en parallèle avec nous sur le roman 1984 qui permet d'illustrer de façon assez éclatante tous les mécanismes qu'on a sous les yeux. On a parlé de la remise en cause des faits et des vérités scientifiques. Et on vient d'écouter Saez, Fils de France. Voilà. Il nous reste une dernière partie, la question du mécanisme fondamental dans le fonctionnement d'extrême droite, qui est désigner des boucs émissaires et se défouler dessus, attaquer les boucs émissaires.
Inciter à la haine, en fait.
Ouais. Alors, allons-y là-dessus. Autrefois, les Juifs étaient une cible privilégiée de toutes les extrêmes droites, hein, bien sûr. On se souvient d'expression, par exemple, judéo-bolchévique, qui avait été inventée dans les années 20-30 et qui stigmatisait les personnes soupçonnées de sympathie communiste. Avec un facteur aggravant, en plus c'est des Juifs. Voilà. Alors évidemment, quand est apparu dans les années 2010 en France un nouveau terme islamo-gauchiste, ça a créé une sorte de malaise, hein, un écho très inquiétant à ce terme de judéo-bolchévique. Simplement, les Juifs étaient remplacés par les islamistes. Mais ce terme a été remplacé par un terme anglo-saxon, bien plus flou et donc bien plus pratique, le terme de « woke ». Plus pratique parce qu'en fait, « woke », personne n'est capable d'en donner une vraie définition. Donc on met dans « woke » tous ceux qui ne nous plaisent pas. Alors la question, c'est qui sont les boucs émissaires d'aujourd'hui pour l'extrême droite? Il y a les fameux woke, hein, d'accord, qu'on ne sait pas définir, mais en gros, c'est ceux qui ne pensent pas comme nous, en gros. Il y a les musulmans, bien sûr, il y a les migrants, il y a les LGBT, il y a les trans, il y a les scientifiques, hein, on l'a vu au cours de cette émission. Faites votre choix, la liste est inépuisable. Fin janvier, devant la menace de priver de subventions fédérales les établissements scolaires qui autorisaient les sportives transgenres dans les équipes féminines, la plus grosse organisation sportive universitaire aux États-Unis, la NCAA, a décidé d'interdire aux sportifs transgenres la pratique sportive dans les sports féminins. Voilà, on va passer maintenant aux éléments concrets d'attaque contre les boucs émissaires. Durant la campagne électorale pour les présidentielles américaines, Donald Trump a donné le ton, hein, les migrants sont des, je cite, criminels barbares. Ce sont des assassins et des terroristes, rien de moins. Il a aussi affirmé qu'à Springfield, les migrants haïtiens volaient des chiens et des chats pour les manger. Donc encore une fois, hein, complotisme, théorie délirante, etc. Démenti par les faits, bien évidemment. Concernant les migrants, Donald Trump a, dès son arrivée au pouvoir, déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, mobilisé 1500 soldats et prépare une loi anti-immigration. Les lois anti-immigration, c'est une constante dans tous les mouvements d'extrême droite. Ils ont réussi à forcer beaucoup de partis de droite classique à s'aligner sur leur position. Ainsi, en France, alors que la loi immigration-asile, qu'on appelle la loi Darmanin, avait été promulguée début janvier 2024, c'est dès le mois d'octobre 2024 que la porte-parole de l'éphémère gouvernement Barnier parlait de la nécessité d'une nouvelle loi immigration. Pourquoi ? Comme d'habitude, on se fonde sur le mantra d'extrême droite qui est devenu parole d'évangile dans beaucoup de lieux. L'immigration est hors contrôle. Voilà. Et cette affirmation, en fait, elle est dénoncée comme fausse par les experts de la question, qui prouvent que c'est faux. On peut citer François Héran, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres, hein, la France n'occupe, par exemple, que la 11e place pour le nombre de réfugiés qui résident sur son territoire. Et ce qu'on appelle le taux de protection synthétique, c'est-à-dire le degré de protection des migrants quand on analyse les décisions prises par les organismes qui gèrent les migrants, c'est-à-dire l'OFPRA et le CNDA, ce taux de protection en France n'est que de 39% contre 52% pour la moyenne européenne en 2021. Okay. On peut citer aussi, toujours dans le cadre français, le débat sans fin autour de l'aide médicale d'État, qui, selon les discours d'extrême droite, attirerait les migrants. Là, encore une fois, tous les experts, les études d'experts montrent que c'est totalement faux, ça n'attire pas les migrants. Et pour information, alors l'Espagne s'est amusée à prendre des mesures de cessation de l'équivalent chez eux de l'aide médicale d'État. Ils l'ont fait en 2012. Résultat, en 2018, ils ont abrogé ces mesures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constaté une augmentation des maladies infectieuses et une augmentation de la mortalité, une surmortalité. Parce que quand on ne soigne pas les gens, monsieur, dame, les maladies se répandent.
Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'AME, non ?
Ouais, bien sûr.
Ça sert peut-être à quelque chose, finalement.
Alors, on pourrait là aussi continuer longtemps à citer des exemples de harcèlement contre divers boucs émissaires. Enfin, on pourrait faire une émission complète là-dessus. Mais on va revenir à la dimension littéraire. Je laisse la parole à Emma pour sa troisième partie sur cette question-là.
Absolument. Et bien, sur cette question-là, je vais vous parler d'un rituel qui a lieu tous les jours. Alors, au moins pour les fonctionnaires dans les bureaux, c'est un rituel obligatoire. Donc, pour les gens comme Winston, ce sont 2 minutes au cours desquelles est diffusée l'image d'Emmanuel Goldstein, qui est vraiment l'ennemi public numéro 1. On appelle ça donc les 2 minutes de la haine.
Ah,
alors,
voilà, oui.
je vous en lis quelques mots de comment ça se passe. Alors, le programme des 2 minutes de la haine variait d'un jour à l'autre, mais il n'y en avait pas un dans lequel Goldstein ne fût la principale figure. Il était le traître fondamental, le premier profanateur de la pureté du parti. Tous les crimes subséquents contre le parti, trahison, actes de sabotage, hérésie, déviation, jaillissaient directement de son enseignement. Donc vous le voyez, on désigne un ennemi, on lui donne un air bien méchant, on fabrique un bouc émissaire à tous les problèmes et on associe à tout ce qu'on veut. Comment ?
Il a quand même un nom apparemment juif.
Il est décrit comme un juif.
Ah oui,
il est décrit comme un juif, bien sûr.
En 48, c'est logique.
Tout à fait. Alors, vous allez voir dans le passage qui suit, ce qui est décrit, c'est presque de l'ordre de l'image subliminale. Et je vous rappelle encore une fois que le roman est écrit en 1948. Il n'a pas volé Orwell son titre de visionnaire. Voilà, les 2 minutes de la haine ont commencé. Et qu'est-ce qu'on voit Goldstein insultait Big Brother, dénonçait la dictature du parti, exigeait l'immédiate conclusion de la paix avec l'Eurasia, c'est un autre,
bloc.
Ouais, défendait la liberté de parler, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il criait hystériquement que la révolution avait été trahie, et cela en un rapide discours polysyllabique qui était une parodie du style habituel des orateurs du parti. Et comprenait même des mots en novlangue. Plus de mots en novlangue même qu'aucun orateur du parti n'aurait normalement employé dans sa vie réelle. Et pendant ce temps, pour que personne ne pût douter de la réalité de ce que recouvrait le boniment spécieux de Goldstein, derrière sa tête, sur l'écran, marchaient les colonnes sans fin de l'armée eurasienne, rang après rang, d'hommes à l'aspect robuste, au visage inexpressif d'asiatiques, qui venaient déboucher sur l'écran et s'évanouissaient, pour être immédiatement remplacés par d'autres exactement semblables. Le sourd martèlement rythmé des bottes de soldats formait l'arrière-plan de la voix bêlante de Goldstein. Et ensuite, on va voir se déchaîner littéralement les bons fonctionnaires du petit bureau qui deviennent hystériques. Déchaînement de haine, sans limite.
Ouais,
mais ce serait pas un peu ce que tu as décrit en parlant des réseaux sociaux par hasard ?
Ouais, tout à fait.
Je me trompe d'ailleurs, où les premiers agents conversationnels qu'on avait laissés sans filtre discuter sur les réseaux sociaux, où ils devaient calquer les interactions humaines, ils devenaient fascistes, racistes et haineux en quelques heures ou quelques jours. Alors, écoutez bien maintenant où c'est fort. C'est la pagaille, tout par Avolo. Heureusement, ce bon Big Brother est là, calme et rassurant, sauveur de l'humanité. Donc c'est la fin des 2 minutes de la haine. La haine était à son paroxysme. La voix de Goldstein était devenue un véritable bêlement de mouton. Et pour un instant, Goldstein devint un mouton. Puis le visage de mouton se fondit en une silhouette de soldat eurasien qui avança, puissante et terrible, dans le grondement de sa mitrailleuse et sembla jaillir de l'écran, si bien que quelques personnes du premier rang reculèrent de leur siège. Mais au même instant, ce qui provoqua chez tous un profond soupir de soulagement, la figure hostile fut remplacée, en fondu, par le visage de Big Brother, aux cheveux et à la moustache noire, plein de puissance et de calme mystérieux, et si large qu'il occupa presque tout l'écran. Personne n'entendit ce que disait Big Brother. C'était simplement quelques mots d'encouragement, le genre de mots que l'on prononce dans le fracas d'un combat. Ils ne sont pas précisément distincts, mais ils restaurent la confiance par le fait même qu'ils sont dits.
Ok, et ben, très bien.
Mais c'est Donald ! Make America Great Again ! Attaquons-nous étrangers, aux minorités ethniques, sexuelles, aux féministes, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Ah mais non, c'est un autre roman, chef. Celui-là. Mmh. Et oui, heureusement, le chef est là.
Ah ouais, ouais, tout à fait. Eh bien, on en a terminé avec cette quatrième partie. On a donc fait un petit tour assez détaillé. Je vous rappelle la problématique qu'on avait posée au départ. Est-ce que les extrêmes droites mondiales qui montent en puissance n'ont pas pour objectif de remettre en cause les principes des démocraties libérales? Je pense que la réponse est plutôt du côté du positif. Oui, il semblerait hein, quand même.
Il semblerait bien.
Puisque si on prend en détail tous les mécanismes qu'on a observés, on retrouve un peu cette tendance systématique. Le recours au roman 1984 est extrêmement éclairant également. D'accord. Malheureusement, cet homme était un visionnaire.
Malheureusement.
Auditeurs de Caladma Radio, on vous laisse avec tout ça, de quoi ruminer. Et puis au mois prochain, merci.
Calade, les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.